Toujours Mishnah 9, Rabbi Hanan ben Dosa. Dont on n'a pas grand chose, sinon c'est quelques mémorotes fondamentales d'Avon. Il est toujours question du kiyum de la chorma, la consistance de la chorma, consistance de l'esprit. On en avait parlé la fois dernière. La question de l'esprit, de sa consistance et de son rapport à la irhatret, à la crainte de faillir. Sur la même lancée, Rabbi Hanina ben Dosa dit une deuxième mémoire. C'est toujours donc 3-9. Hu aya omer, il disait encore. Jean-Marie, tu nous donneras la traduction de Shmilevitch. Kol shema'asav merubin mechokhmato, chokhmato mitkayemet, vechol shechokhmato meruba mima'asav, en chokhmato mitkayemet. On t'écoute.
Il disait aussi, celui dont les actions excèdent la sagesse durera, et celui dont la sagesse excède les actions, sa sagesse ne durera pas.
Il y a quelques incorrections dans cette traduction, mais sinon, elle est essentiellement bonne. On va peut-être corriger quelques... Kol shema'asav merubin mechokhmato. Ceux dont les actes ou les actions excèdent, c'est une bonne traduction, mais je reviendrai sur cette, évidemment, sur cette expression. Merubin me, excède. La chokhma, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la science, on verra pourquoi il retourne. Chokhmato sa chokhma mitkayemet. Alors c'est évident, c'est pas durera. Sa chokhma consiste. Mitkayemet. Sa chokhma consiste. Vechol she chokhmato meruba mima'asav. En revanche, celui dont la chokhma excède les actes, ein chokhmato mitkayemet, sa chokhma ne consiste pas. Et sans consistance. Vous vous rappelez Rashi, terrible. Enfin, c'était pas Rashi d'ailleurs, un pseudo-Rashi, donc sans doute l'interpolation d'un élève de l'école de Rashi. Vous vous souvenez ce qu'il disait? Je vous rappelle, El chokhmato mitkayemet, ein bo mamash ubetela hi. Il n'y a rien dans cette chokhma de mamash, de consistant. Ou betelahi, elle est betela, nulle. Nulle. Comme inexistante. C'est dur de parler de l'esprit. C'est une Mishnah difficile, alors elle est célèbre. Hein. Elle est très souvent citée par les rabbins quand il s'agit de faire, de pérorer le Shabbat. Seulement voilà, c'est une Mishnah difficile qu'il n'y paraît. On va commencer, comme nous le faisons toujours, par la lecture naïve ou la lecture facile. Lecture facile, disons, issu du commentaire de Rashi, du pseudo-Rashi. Chochmato, alors, sur Chochmato, Meruba Mimasa. Il y a un pseudo-Rashi, un Rashi même. Je vais vous dire, c'est un Rashi. Oui, c'est un Rashi. Un Rashi qui dit seulement sur Kol She Chochmato Meruba Mimasa, celui dont l'intelligence ou la science excède les actes, Rachidi, Lamad Arbe, il a beaucoup étudié, beaucoup appris, Ve'eno Mekayem, mais il n'accomplit pas. Il ajoute, c'est la Gemara, Tovlo Imlo Lamad. Alors, en vérité, c'est il eût mieux valu qu'il n'étudia pas. Il eût mieux valu qu'il n'étudia pas. Voilà, grosso modo, l'orientation que va prendre la lecture facile, la lecture naïve de cette Mishnah. C'est, bon, vous avez compris, vous avez tout de suite compris, voilà, ne vous souciez pas d'abord d'étudier, hein, souciez-vous d'abord d'accomplir, de faire, d'observer. Soyez de observants, soyez des frômes, et après, si possible, soyez des rabbis. C'est un discours très, très, très officiel. Hein. Il importe l'urgence, la priorité, c'est le maasé. Avec un peu de chance, la suite, le reste suivra. Donc, qu'est-ce que dit la Mishnah ? Qu'est-ce que dit Rabbi Hanina ben Dosa ? Quiconque fait plus qu'il ne sait. Alors, on va faire attention à la traduction. Ici, je traduis d'après, nous le verrons, d'après Rabbeinu Yonah. Celui, donc, Chochma, c'est Yedia pour Rabbeinu Yonah, c'est-à-dire la connaissance de la loi. D'accord ? Ce que le cher Paul appelait la gnosis nomou, la connaissance de la loi. La yedia, d'accord ? La connaissance du Shulchan Aruch, la connaissance d'Alaha. La connaissance alachique, la science alachique, plutôt l'érudition. Voilà. Quiconque fait plus qu'il ne sait, ou Rashi, plus qu'il n'a étudié. Lamad. Rashi dit Lamad. Quiconque fait plus qu'il ne sait, ça nous verrons, c'est Rabbeinu Yonah. Ou selon Rashi, celui qui fait plus qu'il n'a étudié, Chochmato, celui-là, Chochmato mitkayemet. Concrètement, on n'a pas tous étudié toute la kashrout, ni toutes les ilchot shabbat. D'accord ? Je parle. Là, tu vois, je parle aux compagnons, aux militants, pas aux compagnons de route, aux militants. Donc, on n'a pas tous étudié la kashrout dans le détail, ni ilchot shabbat. On n'en mange pas moins kasher, on n'en est pas moins observant, on n'en observe pas moins le Shabbat, d'accord ? Ça, d'après la lecture naïve, la lecture facile, ça, c'est bien. C'est une bonne attitude. D'accord ? Oh !
Salut.
Ça, c'est la bonne attitude. Faire d'abord, puis, s'il y a lieu, étudier, apprendre, connaître, mais faire. L'urgence, c'est de faire. La priorité, c'est de faire. Bah, je vais pas vous. Alors ça, c'est la version Frumac, mais il y a la version, politique. L'action, ouais, encore plus controversée. Dans l'action politique, d'accord, il y a quand même la question de la théorie qui est primordiale. Mais disons, on accorde le primat à l'action, en tout cas, du côté gauche de la politique. Côté droit, c'est plutôt les pantoufles. Mais du côté gauche, c'est l'action. Primat à l'action. Donc c'est, tout ça, ces discussions sont évidemment très discutées. La question du pratique et du théorique, à quoi faut-il accorder le primat ? Ici, lecture naïve, lecture facile, il faut accorder le primat, la priorité aux pratiques, à l'agir. D'accord, ça vous avez compris. Vous auriez compris ça, non ? À la lecture. À l'inverse, quiconque étudie, ou quiconque a étudié, quiconque a des connaissances à l'Afrique, mais ne fait pas, mais n'agit pas, mais ne fait rien. D'accord ? Ça se trouve, ça. C'est plus rare. On trouve plus souvent, plus souvent des observants crétins et plus rarement des intelligents non observants. Mais ça arrive. Alors quiconque étudie mais ne fait pas, par exemple, il a beaucoup étudié la cacheroute, le traité Roulin notamment, mais il ne mange pas cachère.
Toute la génération d'après-guerre.
Hein?
Oui,
ayant étudié avant-guerre. Alors, première sentence de Rashi, mieux eût valu qu'il n'étudiât pas. Ouais. C'était pas nécessaire d'étudier. Et il y a une autre sentence, cette fois qui n'est pas de Rashi, mais du pseudo-Rashi. Alors, je ne peux pas vous... Donc, j'ai quand même sorti le premier... Chélek de Maseret Avot en français, chez Verdier, avec une longue introduction. Donc je m'explique longuement sur Rashi, pseudo-Rashi. Donc je vous y renvoie. Alors, le pseudo-Rashi dit, donc Nusach Acher, Lectio Altera, autre leçon, Ma'asav Merubin, bon laissons ça, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est donc celui dont la chorma excède, kol alomed veino mekayem, celui qui étudie et n'accomplit pas, domé, il est semblable, le isha shiyoledet v'koveret, il est semblable à une accouchée qui enterre son nourrisson, son nouveau-né. Ou, deuxième comparaison, ou le adam shezorea veino kotser, ou à un semeur qui ne récolte pas ce qu'il a semé. Voilà à quoi ressemble l'intellectuel juif non-observant. À une femme qui enfante et qui enterre son enfant. À un semeur qui sème et ne récolte pas ce qu'il a semé. Voilà pour Rashi. Donc le ton est donné. Voilà, très solennel. Entendez bien, l'intellectuel non observant n'est pas stérile. C'est ça qui est intéressant dans ce pseudo-Rashi. Il n'est pas stérile. Il produit des fruits. La femme enfante, le semeur sème. Et ça pousse. Mais il n'a pas la jouissance de ce qu'il produit. C'est intéressant. La non-observance, nous dit Rashi, fait que sa non-observance fait que l'intellectuel juif n'a pas la jouissance de son intelligence. Enfin, pardon, des fruits, du produit de son intelligence. Il n'en a pas la jouissance. Intéressant. Ça expliquerait pourquoi ils cherchent tous la reconnaissance et les honneurs. C'est qu'ils n'ont pas la jouissance. Ça, c'est Rashi. Pseudo-Rashi. Donc, l'école de Rashi. Alors, réfléchissez bien. Je vous pose une question. Ça, c'est la lecture facile. quelles sont les conséquences de cette lecture facile. Alors je répète, je résume. Non seulement priorité au faire, au masser, non seulement priorité au faire, mais encore, je dirais en français, excédence, c'est un néologisme, excédence du faire sur le penser. Ou sur le savoir. Excédence du faire sur le savoir. Les ma'asav, ma'asav, merubim, merchmato. Excédence du faire sur le savoir. Ça veut dire quoi? Non seulement il faut accorder le prima au faire, mais il faut que le faire déborde le savoir. Il faut qu'on fasse toujours plus qu'on ne sait ou qu'on étudie. Toujours plus. Non, laisse dans Kiddushin sur le Talmud et Maaseh. On va aborder la question d'un autre angle. Mais c'est toujours le même sujet. D'accord? Entendez bien. Il faut non seulement accorder le prima aux pratiques, sur le théorique, mais il faut encore que le pratique excède le théorique. L'action doit toujours déborder la théorie. Ah, dans le domaine de la politique, ce serait étonnant, quand même. Étonnant. Voilà. Alors, maintenant, je vous pose l'action. Maintenant que c'est formulé, je vous demande quelles vont être les conséquences d'une telle lecture. Réfléchissez bien.
Étudier.
Hein?
C'est un risque de trop étudier. Parce qu'on est obligé de faire beaucoup plus.
Ah ben c'est bien ça. Non, c'est le contraire, le risque, à mon avis.
Non, parce qu'on met la barre haute.
Et alors, c'est pas bien beaucoup. Tu veux mettre la barre basse?
Oui, mais c'est plus difficile de faire des actions, plus d'actions.
Si vous voulez, c'est plus difficile de faire beaucoup que de penser beaucoup?
Non, celui qui étudie beaucoup, il doit faire beaucoup.
Alors?
Et donc il a mais un risque de faillir plus grand que celui qui n'a pas beaucoup étudié, parce qu'il doit faire plus que ce qu'il
sait. Bon, tu tournes autour du pot, mais justement, c'est ta deuxième proposition qui m'intéresse, pas la première. C'est ta deuxième proposition qui est la vraie conséquence de cette lecture. Reprends ta deuxième proposition.
C'est celui qui étudie pas beaucoup, il n'a pas beaucoup à faire.
Non, le contraire.
Non, il a plus à faire, mais par rapport à...
Voilà, exactement. À celui qui... Donc, vas-y, maintenant fais une loi. Si tu as un esprit un peu mathématique. Donc, vas-y, maintenant énonce une loi. Moins on étudie, moins on a à faire. Il faut évidemment faire plus qu'on étudie. Mais, du coup... Comme l'homme, par nature, est paresseux, ça, vous n'allez pas me démentir, hein ? L'homme est paresseux. Qu'est-ce qu'il va conclure de cela ? Qu'est-ce qu'il va conclure de cela ? Il dit, voilà, je suis paresseux, par nature. Donc, je veux faire moins... Toujours moins. Mais, pour le coup, il faut, pour respecter la loi de Rabbi Chanan Mendoza, il faut étudier moins encore. On est d'accord.
Mais excusez-moi, moi j'ai fait là au cours, vous avez appris, j'imagine, ce qui précède. Est-ce qu'il
ne
faut pas accrocher ça à ce qui
a été
dit avant?
Il rapprête. Ouais. On va pour le moment ne pas le raccrocher. On peut toujours le raccrocher. Mais là, pour le moment, on a parlé de la, du propos précédent la dernière fois. Là, on va d'abord les traiter à part. Après, si on veut faire des raccords, on pourra le faire. Mais je veux d'abord traiter cette mémoire à part. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La conséquence, les suites de cette lecture, c'est ce que Platon appelle, dans deux de ses dialogues, la caisse et le phèdre, c'est la misologie, la haine de la pensée. La haine ou la détestation de la pensée. Pourquoi ? Pourquoi cette lecture facile a pour conséquence la misologie ? Pour une raison simple. Pourquoi va-t-on se dire ? Pourquoi savoir ? Là, je suis la leçon de Rabbeinu Yonah. Pourquoi étudier ? Rashi. Pourquoi savoir ? Pourquoi étudier ? Si l'on court le risque de savoir plus qu'on ne fait. Et donc, si l'on court le risque que ce savoir ne consiste pas, n'ait pas de consistance. Pire même. À plus savoir, nous aurons à faire plus. C'est un peu ce que tu dis. À plus savoir, nous aurons à faire plus. En d'autres termes, sachons moins et nous aurons moins à faire. Sans être pour autant plus indigne. Parce qu'au fond, ici, ce qui importe, c'est que c'est, je dirais, une loi d'excédence. C'est de respecter le principe d'excédence. Du pratique sur les théories. C'est ça. Là, la chorma est mise carrément. Alors, si tu veux que ça consiste, ta chorma, eh bien, réduis-la à rien. Plus de savoir. Mais c'est la conséquence absurde de ce principe. Je répète. Sachons moins et nous aurons moins à faire. Autrement dit, moins nous saurons, moins nous aurons à faire pour conserver notre réputation de sage, de chacham. C'est extraordinaire, ça veut dire. En vertu, si je suis cette lecture naïve, en vertu de cette lecture-là, si je me conforme à ce principe d'excellence pour justement que la chorma soit mitkayem, pour qu'il y ait une consistance, pour que j'ai la réputation d'être sage, ce qui est un kiyum de cette chorma, d'accord ? Il faut toujours que j'étudie toujours moins. Il faut que j'en sache toujours moins.
Ça se mord un peu parce que.
Pourquoi ?
Parce que si on n'étudie plus, on ne peut pas atteindre la sagesse.
Ah ! Et alors, qui vous dit qu'il faut atteindre la sagesse ? Le principe d'excédence ? Non, mais ça, c'est un idéal. C'est Tao, mais c'est ce que vous voulez. C'est pas un idéal juif. Vous avez vu, c'est pas un idéal juif. Ce qu'il faut atteindre, c'est. La question n'est pas d'atteindre la sagesse. La question est de toujours, si l'on suit la doctrine Mendoza, dans la lecture naïve, c'est toujours de respecter, de se conformer au principe d'excédence. Ça veut dire, si je pratique la sagesse, alors, voilà, si je pratique, si je m'adonne à la sagesse, alors il faut que je pratique davantage. D'accord ? C'est ça. Ici, je m'en tiens à ce principe d'excellence. Je m'en tiens à ça. Si je m'en tiens à cela, parce que ça, pourquoi je m'en tiendrai à cela? Pourquoi? Parce que c'est la promesse d'un kiyum de la chorma. Je peux me dire véritablement sage si je respecte ce principe d'excellence. Je puis dire oui, je suis sage, mamache, parce que je respecte ce principe d'excellence, parce que je fais plus que je ne sais. Je suis un vrai sage. Je suis vraiment sage. C'est tout le contraire de l'Occident. Encore une fois, je suis... Pourquoi ? Là, je veux dire d'un Occident. Encore, je parle de, d'éthique et de pratique, là, pas de, d'action politique. L'action politique, c'est... On pourrait... C'est un sujet en soi. Mais... Ici, il est évident qu'en Occident, la vie contemplative prime sur la pratique. Alors, ça, la pratique chez un occidental, chez le meilleur des occidentaux, donc un grec ou un romain, la pratique chez un grec, c'est par exemple la vie de la cité, la vie citoyenne. Chez un Romain, c'est la vie militaire. Et la sagesse prime tout ça. C'est même un dépassement de tout cela, la sagesse. La sagesse, c'est un dépassement de la vie simplement citoyenne. La sagesse, c'est un dépassement de la vie contemplative. C'est un dépassement... de la vie citoyenne, la vie contemplative, c'est un dépassement de la vie militaire. Apprends Marc Aurèle, hein, penser pour moi-même, c'est clair. Ici, c'est le contraire. Il faut, si l'on veut être réputé sage, si l'on veut être vraiment sage, mamache, comme dit Rachid, il faut que la pratique excède toujours la science. Ça, c'est la lecture naïve. Ouais.
Ce en chokhmato mikayemet, c'est pas quelque chose en absolu. Parce que si c'est en absolu, on arrive à un système absurde où celui qui sait moins mais qui fait un peu plus, il est plus sage que celui qui...
C'est ce que je t'ai dit, mais
oui,
c'est...
D'accord, mais...
Mais c'est tout. C'est...
Le en chokhmato mikayemet, c'est sur l'excès de savoir par rapport au faire. Parce que sinon, on va comparer un grand sage avec un Maharetz.
Et alors ?
Et on va dire que le Maharetz, il est plus grand.
Et ouais. Il est plus vraiment sage qu'un grand érudit. Oui, oui. Ah, mais toi, tu raisonnes en occidental.
Tu raisonnes en occidental.
Bien sûr.
Mais oui, ça devient.
Ah, mais si on est sur son excès, son excès d'action, de savoir qu'il n'a pas. Sur lequel il n'a pas fait des choses. Alors, à ce moment-là, sa Chorma ne tient pas. Mais le savoir qui sait, qui pratique, là ça tient.
Si la pratique,
oui, mais...
déborde toujours son savoir.
Voilà, ouais. Mais d'accord, mais sur la partie qui déborde, on peut les comparer, et à ce moment-là, le sage reste plus sage que la marette, bien qu'il fasse moins en action sur un certain plan. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
À peu près, ouais. Donc quoi
que
si tu veux sauver le sale.
Voilà, parce que ouais. Si il aime Mais ça veut dire que s'il ne fait pas une petite action par rapport.
Non, mais d'accord. Un sage qui fait beaucoup plus, dont la pratique est immense. D'accord. Dont la pratique ne se réduit pas à quelques maaseh mitzvah. D'accord, quelques rites, mais un ritualiste absolu. Ouais. Celui-là, je dirais, d'accord, il est supérieur au Amaharetz. Mais ça, c'est inhumain, puisqu'on a dit que, naturellement, l'homme est paresseux. Pour l'homme inhumain ou surhumain, comme tu veux, effectivement, ce sera... Il faudra toujours accroître sa pratique à mesure qu'on est plus, que l'on est plus sage. D'accord ? Mais lorsqu'on est humain, d'accord, on aura tendance, au contraire, à répugner au savoir, d'accord, mais par souci, si tu veux, de ne dépasser jamais sa pratique. Donc on va, c'est naturellement, cette répugnance de la science juive va, et c'est le cas. Alors, je vais quand même évidemment faire quelques objections, mais il faut entendre que, selon la lecture même, et c'est la lecture de la plupart des lecteurs, c'est, je dirais, comme on dit, la doxa, c'est la lecture commune, d'accord ? Eh bien, il y a, du coup, par conséquent, une tendance très lourde à la misologie dans le monde observant. Il y a nécessairement, parce que ça n'est pas un monde de surhomme, il y a tendance à la misologie, et c'est normal. C'est normal, parce qu'il faut que toujours la pratique excelle, la science. Et comme on ne peut pas dans une sorte de surenchérir toujours, alors c'est l'inverse qui se produit. On se déleste de la science pour se sentir sage. Et c'est d'où l'outrecuidance d'un fôme. Il suffit qu'il soit un maniaque, un obsessionnel compulsif, et il se croit un grand, un sage. Ben oui, de toute façon, il a l'encéphalogramme plat, donc il est au degré zéro de la science, mais il est un sage. Alors oui, pour lui, au moins, c'est pas difficile, l'excès, le débordement de la pratique sur la science.
Excusez-moi,
j'exagère, je grossis le trait.
Parce qu'il vit en plein air, puisque lui, il a quand même compris, cette personne, il a compris que l'étude, c'est ce qu'on enseigne quand même aussi, l'étude prime, surtout pas sur un
bas. Mais on s'en tient à Rabbi Hanina Ben Dossa. On s'en tient à Rabbi Hanina Ben Dossa. Alors, disons que Rabbi Hanina Ben Dossa. C'est le parti de la droite populiste dans le monde faux. D'accord, il y a d'autres partis. Je parle ici d'une tendance, d'un courant dans le monde faux qui partage ce point de vue sur l'étude et le Maasé, sur le Talmud et le Maasé. Ils partagent ce point de vue, non pas de Rabbi Hanina Ben Dossa, mais d'une lecture facile de Rabbi Chaim Mendoza. Ça, c'est clair. Dans mon fond, ça se constate. Il suffit de mener son enquête. Mais l'on constate très vite, on le constate.
Dans ce cas-là, n'étudie pas.
Mais non. Alors, il va étudier, mais pour d'autres raisons.
Mais ça, c'est plutôt le monde traditionnaliste, plutôt que le monde.
Quoi ? Mais non.
Parce que le traditionnaliste, il pratique, il fait des traditions et il n'étudie pas.
Et alors
que le Fromm, quand même, il a.
Je vais parler de.
Non.
Ça, c'est des apparences. C'est ça que c'est de l'esbrouf. Et je vais t'expliquer pourquoi, dans le monde Fromm, un Fromm étudie. Pas parce qu'il appète à la science. Il appète la science, non. Pas du tout. Pour d'autres raisons. Je vais y venir. C'est justement les objections.
Excusez-moi, une question pratique. Comment voulez-vous juger de votre niveau de science pour ensuite, de facto, en suivant donc cette notion-là, savoir où situer ensuite votre action pour qu'elle soit au-dessus
ou mettre
comment s'auto-évaluer sa propre sagesse ou intelligence pour ensuite pouvoir fixer un curseur au niveau de
approximativement. C'est approximatif.
C'est la halakha, vous avez parlé au début, je crois. La halakha. C'est une question de halakha, en fait. C'est mitzvot, c'est...
Ouais, c'est ça. Mitzvot,
c'est... Vous, enfin, moi, je parle à vous.
De le faire,
hein, par exemple. Nous, nous tous, ouais, je parle, en fait, je dirais, moi, en tout cas, eh ben, j'en fais plus que je ne sais, ça, c'est certain.
Ah bah, je le sais, parce que j'ai pas étudié Khoulin dans le détail, j'ai pas Maseret Shabbat, je suis loin de l'avoir terminé, mais pourtant, voilà, je m'astreins à toutes les xérotes, les mlachotes, les xérotes, tout le shvout, des ramalas, donc tout le dispositif rabbinique de Shabbat, toutes les takanot, xérotes, donc kashrout, hein, je m'y astreins. Mais voilà, donc j'en fais beaucoup plus que je ne sais. Heureusement, je ne partage pas cette lecture facile, sinon je me prendrais pour un grand sage, mais ce n'est pas le cas. Autrement dit, l'ignorance absolue, c'est la conclusion paradoxale de ce principe, l'ignorance absolue vaudra toujours mieux pour l'homme ordinaire que le savoir. Parce que l'ignorance absolue, l'ignorance à sa limite, eh ben, on parle d'un observant, bien sûr, eh ben, ce sera évidemment une observance. On est toujours plus observant qu'absolument ignorant. Ça, c'est évident. Donc là, on est sûr de tenir la sagesse. Dans l'ignorance absolue, l'horizon de l'ignorance absolue, voilà. La sagesse, l'idéal de sagesse pointe. C'est beau, non ? Ouais. Gardons, en somme, l'esprit crasseux, nous n'en serons que plus sages. Voilà la conséquence paradoxale, la conséquence misologique de cette mémoire. Alors, tu résistais, je dis, ah oui, mais dans le monde des yeshivot, on étudie. Effectivement, on va m'objecter que les observants admirent les prouesses mémniques des rabbins survitaminés. D'accord ? On est sur des super rabbins, les Rambos du Talmud qui viennent. Ah, et là, il était toujours une bande d'oies. C'est quoi ? Pourtant, voilà, ils admirent l'étude, quoi. Ils admirent le savoir. Ils aiment le savoir. C'est pas des misologues, ça. Ou bien, vous avez toujours cette bande d'oies qui, tous les matins, après la tfila, vont faire leur petit daf à Yomi. Et ils sont contents, donc ils aiment l'étude, quoi. Quand même, c'est des gens. Alors, c'est ça que tu m'objectais. Mais là, ça vaut même pour les traditionnalistes, les pauvres. Pourquoi tu les dénigres tant ? Aussi, ils font le dafayomi. Aujourd'hui, c'est à la mode.
Pas ceux que je citais.
Ah bon, d'accord. Tu parles de traditionnalistes provinciaux, alors. Ah, les vrais, les authentiques. Alors, tous,
pas tous,
oui, de plus en plus d'observants veulent faire leur page quotidienne du Talmud. C'est vrai qu'ils ne lisent plus les journaux, les quotidiens, mais ils lisent leur page de Talmud. Bon, on dirait qu'on a gagné au change, peut-être, ouais. Alors, vous allez dire qu'on admire le savoir. Dans le monde observant. En vérité, on admire l'étendue du savoir. Je réponds là à la première question. À la première objection. On admire l'étendue du savoir et non le savoir lui-même. Tu vois, c'est simple. Vous prenez un dictaphone, vous enquêtez, vous allez dans un bêta-midrash après une exhibition d'un Rambo
du Talmud et vous allez enregistrer une réaction.
Ah, oh, mais ce qu'il débite, à la vitesse comment il débite.
Là, c'est tout ce que vous en obtiendrez. C'est-à-dire une idée, un ridouche, néant, de toute façon. En revanche, la prouesse technique, là, ça. Donc, ce qu'il leur en impose, c'est quoi? C'est le gros tas. Parce qu'en vérité, un gros tas de purin, c'est toujours plus impressionnant qu'une petite crotte. Hein? Vous avez déjà vu un gros tas de purin? Eh bien, une petite crotte, c'est pas impressionnant. Un gros tas de purin. Le purin, ça, c'est rien, le purin, c'est de la merde. En quoi c'est impressionnant? Mais non, mais c'est un grand tas! Ah, ça vous ça en impose, ça. Un grand tas. Même de purin, ça en impose. Ouais, une petite crotte. Eh bien, c'est ça. Voilà. Ça se réduit à ça. C'est ça qui impressionne la plèbe chez un rabbin virtuose. Deuxième objection, le Daf Hayomi. Si tant de médiocres aujourd'hui affectent d'étudier, c'est tout simplement parce qu'il est bon ton, de bon ton d'étudier. D'accord ? Dans les années 30, il était de bon ton de ne pas étudier. En Pologne, en Europe centrale, il était de bon ton d'aller étudier à l'université, d'aller militer, d'aller préparer l'avènement d'un monde nouveau. Étudier le Talmud, ça c'était vraiment... C'était bon pour les bouseux. Aujourd'hui, il est bon ton d'étudier. Alors, on étudie. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas, surtout pas, passer pour ignorant, d'autant plus qu'on l'est. D'autant plus que notre horizon, c'est l'ignorance absolue. Donc, pas d'objection. Ce n'est pas des objections. Je crois que j'ai dit, je t'ai répondu, c'est des apparences. C'est en apparence. La chorma, ils n'en ont que foutre. Mais que foutre. Rien. Rien. C'est des misologues. Au sens, il faut que tu dises, bah, je ne sais pas si tu lis la philosophie, peut-être. Pour ceux qui lisent un peu la philosophie, il faut lire ces petits passages de Platon dans la caisse, surtout dans la caisse, c'est extraordinaire, sur la misologie. Donc, en vérité, dans ce petit monde d'observants, ce que l'on préfère fondamentalement, c'est l'ignorance au savoir. Et c'est normal, parce que c'est la conséquence d'une lecture facile de cette mémorale de Rabbi Chaim Mendoza. C'est par idéal de sagesse, hein. C'est extraordinaire. C'est par idéal de sagesse qu'on répugne au savoir. C'est ça qui est... J'aime pas vraiment la pierre. Je me moque un peu, mais... J'aime pas la pierre. C'est vraiment par idéal de sagesse. Il en va, pour tous ces gens, de l'estime de soi. Il en va de l'estime de soi. On se sente infiniment plus sage en étant ignorant. Et ça, c'est un trait fondamental. Et c'est propre au monde juif, enfin au monde observant. C'est un trait très saillant du monde observant. On se sent d'autant plus sage qu'on est plus ignorant. Je parle de sentiment de soi, comme ça. D'où l'outrecuidance. Hein, je veux dire, dès qu'un juif est un peu pratiquant, il devient outrecuidant. Ah ouais. Ça n'arrive pas chez les goyim. Ils ont d'autres défauts, c'est sûr, ça. Mais pas celui-là.
Il y a un petit peu de culture, il y a
des
pâtes
sur la confiture. Non, mais ça n'a rien à voir.
Si, ça a beaucoup à voir.
Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Ça a rien à voir. Ça a à voir avec la
petite. Tu veux quoi? Tu veux vraiment me mêler? Tu veux vraiment aussi salir le non-juif avec non, le juif?
Le petit afayomi qui te permet de parler dans les salons.
Ah, tu parles de ça? Oui. Oui, non, mais ça, d'accord, mais c'est pas ça. Ça, c'est pas très essentiel. Ça, c'est rien, ça, c'est la vanité. Non, ce que je voulais, c'est plus fond. Il y a quelque chose de plus enraciné encore. Vraiment. Et le plus grave en même temps, c'est que à l'horizon de l'ignorance absolue pointe l'idéal de sagesse. Ça, c'est quelque chose. C'est pas pour rien, si tu veux, que Jésus est sorti de ce monde-là. Jésus est sorti du monde observant, tu sais. Je ne vais pas te rappeler des évidences. Hein. Le petit Jésus est sorti, est issu du monde observant. Il était observant, d'ailleurs. Il est mort, là. Juif observant. Mais c'est lui qui nous a sortis heureux les indigents, les pauvres d'esprit. Heureux, les pauvres d'esprit. Tu te rends compte? C'est pas pour rien. Bref.
Je pensais que c'était chrétien.
Hein? Quoi?
Moi, j'ai toujours...
Mais oui, c'est l'évangile. Mais attends.
C'est une pensée juive.
Mais bien sûr que sinon.
Oui, ça va.
Attends, vous croyez. Mais alors là, je suis scié. D'abord, vous devez savoir que l'évangile, disons, mettons de côté l'évangile de Luc, mais tout le reste, c'est que du yid. Hein. Les christianismes n'existent pas encore. Ils ne sont même pas encore appelés chrétiens. Ce sont des nazaréens, comme on disait. Ce sont des juifs messianistes. C'est-à-dire qu'ils croient dans la messianité de Jésus, mais ils sont juifs tous, juifs observants. Ah, il a failli. C'est Paul ensuite qui va provoquer la. Mais. Donc c'est tout. C'est une pensée juive déviante, mais. Mais ça. Mais on baigne dans. C'est totalement juif, hein, les évangiles. C'est pour rien, c'est comme ça. Dans Avot de Rabbi Nathan, on avance un peu. Dans Avot de Rabbi Nathan, bon, c'est juste pas nécessaire de le voir, mais dans Avot de Rabbi Nathan, chapitre 22. Alors, on n'a pas le texte, mais il n'y a rien, c'est juste une citation. Dans Avot de Rabbi Nathan, donc qui est une sorte de, si vous voulez, de braïta, de braïta sur Avot, on dit là-bas, Kol Shema Asav Merubin Vechole, et on dit simplement Shenema, comme il est dit, Naase Venishma. C'est tout ce qu'il dit dans le matin. Naase Venishma, nous ferons et nous entendrons, comme on traduit. C'est Rabbeinu Yona qui cite. Le Midrash, qui cite le Rabbeinu Nathan, avant de Rabbi Nathan, pardon. Alors, c'est Kol Shema Asav Merubin Mechochmato. Vous l'avez, c'est la deuxième ligne avant la fin. Je reviendrai évidemment à ce qui précède, mais voici ce qu'il dit. Vechen mefourash, mefourash be'avot de Rabbi Nathan. Vechen mefourash be'avot de Rabbi Nathan. De Tananatam. Kol shema'asa merubin mechokhmato, chokhmato mitkaemet, shenemar na'ase v'nishma. Ça, c'est l'avot de Rabbi Nathan. Vous l'avez? Tu l'as? Tu as vu ou tu veux le texte? Et voici comment il interprète, lui, Rabbi Yonah, parce que c'est tout ce qu'on dit hein, dans la voix de Rabbi Nathan. Naasem Nishma, en fait, ce célèbre verset d'Exode, nous ferons et nous entendrons. Et Rabbi Yonah dit Chez Gdimou Israël Asiya Lashmia. Parce qu'Israël, les Israélites, ont fait précéder l'action à l'entendement. Donc vous voyez déjà ce qu'il dit. Donc il dit tout de suite, le Rabbi Yonah, tout de suite, il s'agit pour lui d'une agdama. D'accord ? D'une agdama, c'est-à-dire d'une priorité de l'action sur la science, ou sur la théorie. Point. Ah non, alors voilà. Or, il aurait dû dire, va yalaim lomar, et il aurait fallu dire, na nishma venase. On entend, on apprend, et après on fait. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Qui kodem shiyuchlu la'asot et amaase, tsrichin nishma ma ya'asu. Parce que pour faire, il faut savoir quoi faire. Je le prends par bout, hein, Rabbi Yonah. Alors, ne soyez pas un peu déstabilisé, je le prends par bout, je vais. Il dit nous aurions dû dire, nous serions attendus à ce. Il était logique de dire Nishma venase. Nous entendrons et nous ferons. Encore une fois, Rabbi Yonah, lui, par Nishma, qu'est-ce qu'il entend? La connaissance de la loi. D'accord ? Ça, c'est une constante dans tout son commentaire. Là, c'est ici, par Horma, il faut entendre la connaissance de la loi. Donc, par Naasev Nishma, Nishma, il dit, c'est la connaissance de la loi. Donc, il faut d'abord connaître la loi pour l'accomplir. On aurait dû. D'accord ? Donc, il était...
On parle qu'il était... Peut-être qu'on remet que le Naasev Nishma dans son contexte.
Non.
C'est peut-être pour ça qu'ils ont dit ça, oui.
Non.
Parce que c'est les Israélites qui ont dit, enfin les Hébreux qui ont répondu ça. Ah,
mais, oui, oui, bien sûr, oui. Alors
c'est quand même, ça vaut le coup de remettre ça dans le contexte. Parce qu'ici, a priori, je veux dire, la Torah a été proposée à toutes les nations, et elles l'ont refusée.
C'est pas le problème.
Bah oui, et puis, bon, je veux dire, il y a quand même...
L'Ibn Israël, d'accord, s'ils avaient été rationnels, d'accord, c'est ce qu'on leur reproche dans le Talmud, c'est ce qu'un Sadducéen leur reproche. Non, vous êtes déraisonnable. On ne dit pas Naasev Nishma. Enfin, on dit Nishma Benassé. On apprend, on sait, surtout selon l'explication de Rabbi Yonah, Nishma, c'est connaître la loi. Donc évidemment, il faut d'abord connaître la loi pour l'accomplir, pour la faire. Enfin, ça est raisonnable. Ça veut dire quoi, Naasev Nishma? Voilà. Non mais... D'accord? C'est simple. On reviendra après. On reviendra à sa réponse. Mais simplement, pour dire... Alors, si Rabbi Yonah entend, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la Hagdama, le Higdimu, d'abord parce que c'est évidemment inspiré d'un passage sublime et très célèbre, une dracha de Rabbi Simaï dans Shabbat, d'accord, qui dit Beshaas Higdimu dans Shabbat, 88a, si vous voulez. Alors, pourquoi c'est d'autant plus sensible, Shachi Dimo? Parce que c'est par là que commence le fameux Rachab, discours du Rachab, Resh Ha'im Bet, donc de l'année 1912, qui est le plus sublime discours de métaphysique que je connaisse, toute métaphysique confondue. Ça commence par Shachi Dimo, ça commence par cette Rachab Rabbi Simaï, dans Shabbat. Donc, au moment que les Bnei Israël ont d'abord
on fait précéder le Naase Onishma, alors immédiatement les anges sont descendus et leur auront remis deux couronnes, la couronne du fer, et la couronne du savoir. D'accord ? C'est une célèbre dracha. Donc c'est évidemment, ça tinte dans l'oreille de Rabbeinu Yonah, dès qu'il est question de la Sivan Nishma, tac ! Pour lui, c'est Agdama. C'est pas sûr du tout que quand Avod de Rabbi Nathan cite le verset de la Sivan Nishma, ils entendent ici l'Agdama, l'idée que le Maaseh précède le savoir. C'est pas sûr. Il n'empêche que c'est le Rabbeinu Yonah ici qui m'intéresse. C'est problématique, cette interprétation qu'il fait du Naase V'Nishma, mais cette application qu'il fait du Naase V'Nishma à notre Memra. Pourquoi c'est problématique? Parce que, justement, et c'est l'intérêt de la Mishnah précédente, dans la Mishnah précédente, qu'est-ce qu'il est dit? Kol She Ir'at Chet'o Kodeme. Il est déjà question, Rabbi Hanina a déjà parlé de la Gdima. J'ai longuement parlé de la Gdima la semaine dernière, il y a deux semaines, de la Gdima, donc de la priorité de la crainte de faillir sur l'intelligence. Donc il est déjà question de Gdima. Dans la deuxième mémoire de Rabbi Hanina, il n'est plus question de Gdima, il n'est pas dit Kol Shema Asav Kodzmin le Chochmato. Il n'est pas dit tout celui dont les actes précèdent la Chorma. Ce n'est pas ça qu'il est dit. Mais c'est comme ça qu'il l'entend, Rabbeinu Yonah. À cause de ce Naase V'Nishma. À cause de ce Avod de Rabbeinu Nathan. Ce n'est pas ça qu'il est dit. Il est dit Merubin le Chochmato. Merubin. Ils excèdent. Ils sont en excès sur la Chorma. Ça, c'est un point fondamental. C'est un point de confusion chez Rabbeinu Yonah, mais Rabbeinu Yonah en a été avisé, vous allez comprendre pourquoi. Encore une fois, c'est très important, les mots sont toujours, surtout dans ma Maaseret Avot, les mots sont pesés. D'accord ? Surtout Rabbi Chaim Gossard. Hein. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'a pas écrit 20 volumes de... Il a dit que 3-4 choses. Donc, franchement, au moins qu'il ait pris garde à ce qu'il ait dit. Qu'il ait pesé, bien pesé. Il n'est pas question ici, dans cette mémoire, de priorité. Donc, stricto sensu, il n'est pas question de priorité de l'action sur la pensée, mais du surnombre des actes, ribouyamaasim, du surnombre des actes sur la pensée. Alors, vous avez remarqué que c'est un chiasme, hein, cette memra. Bon, peu importe, c'est une structure en croix de la... Mais pourquoi ce chiasme est trompeur? Pour une raison simple. Ce chiasme est trompeur, donc vous avez d'abord Kol Shema Asav, Merubin Mechochmato, et ensuite Kol Shema Chochmato, Merubin Mechochmato, ce qu'on appelle un chiasme, en rhétorique. D'accord? Donc structure en croix. Or, ce qu'il y a de trompeur dans la structure en croix, c'est que c'est la symétrie. D'accord? On croit. Là, sans même y prendre garde, on croit que Kol Shechochmat, Kol Shemaasav Merubin Mechochmato, le Merubin Merubin ici a le même sens que dans son symétrique, enfin dans le Kol Shechochmato Meruba Memaasav. Or, quand on y regarde de près, ça ne peut pas avoir le même sens. Parce que quand on dit que les Maasav sont Merubin, on entend qu'ils sont nombreux. Plus nombreux que la Chorma.
Tandis que quand on dit que la chorma, les merouba, mes marasav, on ne peut pas dire plus nombreuse. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que la chorma n'est pas nombrable. Pour raison simple, la chorma, ça n'est pas nombrable. Comme on dit dans la Gemara, ce n'est pas d'avar chez Béminyan. Il n'y a pas de nombre dans la chorma. Il y a un nombre des actes, mais il n'y a pas de nombre dans la chorma. Donc, quand Rabbi Chaim Mendoza dit Kol she chokhmato meruba memaasav, meruba memaasav ne s'entend pas comme Kol she maasav merubin mechokhmato. Il y a donc asymétrie et non-symétrie comme le chiasme le laissait penser. D'accord ? Bon, je vous passe les psukim, on trouve l'expression Rof Chochma dans les psukim, il y a deux occurrences. On trouve une occurrence, c'est un impact de Rof Maasim. Mais, tant pis, on n'a pas le temps là de regarder ça dans le détail. Donc, entendez bien. Donc ça, entendez bien. Il y a bien structure, il y a bien chiasme, mais ne vous y laissez pas prendre. Il n'y a pas symétrie, il y a asymétrie de l'expression, notamment de l'expression, de la formule Merubin et Meruba. Alors, Rabbeinu Yona a été sensible à cette difficulté. Quand il a bien senti, je vais vous le montrer, il a bien senti que quand il parle de Hagdama, du Maasé, d'une priorité du Maasé sur l'acte, non, c'est pas tout à fait ça que recouvre l'expression Merubin. C'est pour ça qu'il va aller plus loin. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient très intéressant. Il va, du coup, nous proposer une lecture, donc c'est à ça que je vais consacrer cette séance, la Chita de Rabbeinu Yona, peut-être, si on a le temps, pas sûr, la Chita du Tiferet Israël, j'espère, et dans une prochaine séance, on essaiera d'aller plus loin. Mais pourquoi ces deux Chita ? Parce que ces deux Chita sont remarquables. C'est rare hein, qu'on ait des... D'habitude, c'est assez routinier le commentaire d'Avot. Mais là, on a vraiment deux commentaires assez remarquables de cette Mishnah, de cette mémoire de Rabbi Chanan Mendoza. Rabbeinu Yona va nous livrer une lecture qui n'est plus naïve, qui n'est pas facile. Une lecture donc difficile, et vous allez voir pourquoi, une lecture difficile de cette mémoire. Il est donc sensible. Il est sensible à la difficulté. Alors certes, il parle, comme vous l'avez vu, il parle toujours en termes de gdima, de priorité, mais il infléchit le sens qu'on lui donne d'ordinaire. Et voyez ce qu'il dit. Donc je m'étais arrêté. Il faut reprendre. Il faut reprendre. Je m'étais arrêté à « il aurait dû dire Nishma Venaase ». Pourquoi ?« Kikodem shiyuchlu la'asat et amaase tzrichin lishma mayasu » Car avant de pouvoir faire un acte, encore faut-il le connaître, l'avoir appris. Et qu'est-ce qu'il répond ? Donc comment il justifie le Naase Venishma ? Écoutez, c'est incroyable. Il a cette section, c'est vraiment, je n'ai jamais vu nulle part une telle doctrine. Il dit la chose suivante, et on va voir, bon ça c'est la fin, mais prenez le texte, c'est la fin à la fin de ce que je vous ai vu, et on reviendra parce qu'il en parlait avant déjà, mais encore une fois, je le découpe et je le manie un peu à ma sauce. Voilà ce qu'il dit. Et là, chez Kiblou, donc maintenant je justifie le Naase Nishma,
Kiblou Alehem Techila, La Sot Kolacher Yitzavelem, Veishmaou.
Là. C'est quoi?
C'est qu'ils ont, pourquoi Naasev Nishma? C'est qu'ils ont accepté, pris sur eux, assumé d'abord de faire, ils ont accepté de faire Kol Asher Yitzaveh Lahem, tout ce qu'on leur enjoindra, Veishmaou,
et d'apprendre.
Ou Miyad, aussitôt, écoutez bien, aussitôt, Kiblou Sachar,
ils en ont été récompensés, Keilu Asaoum, comme s'ils les avaient fait. C'est une chita, je n'ai jamais vu une telle chita.
Bon, je n'ai pas vu grand chose, vous me direz, mais j'ai même jamais entendu, jamais ouï dire, jamais eu vent d'une telle chita. Alors, vous allez comprendre, là, c'est un peu vague. Reprenez plutôt dans Ravenu Yonah. Il commence, alors Ravenu Yonah, Dibur HaMatril, Kol Shechokhmato Meruba Memaasav, En Chokhmato Mitkayemet. Vous l'avez, Dibur HaMatril, dans Ravenu Yonah? C'est Kedai, le suivre dans le texte. Il commence par un premier commentaire que j'écarte, c'est celui du Rambam. Peu importe, il est intéressant par rien, mais il n'est pas fondamental. Bon, c'est comme ça, il commence, il ne dit pas le Rambam, il dit Kar Pirchois Rishonim. Alors bon, dans ma note, ils ne savent pas qui sont ces Rishonim, mais évidemment, à l'évidence, c'est le Rambam, mais il suffit d'être un peu attentif. Donc vous sautez les deux premières lignes et il dit Aval Yesh Israël. Cependant, bon, il écarte, bon, il met de côté le pirouge du Rambam, le commentaire du Rambam, et il dit la chose suivante. Cependant, Yesh Israël, il faut demander, il faut poser la question. Sur Rabbi Chaya Ben Dosa. Efshar lihiyot ma'asav merubin mechokhmato. Comment est-il possible que les actes soient plus que la science? Encore une fois, je répète, pour Rabbi Yona, il ne fait aucun doute que par Chorma, il faut entendre la connaissance de la loi. Alors, ça, ayez-le bien en tête. Par conséquent, comment les actes, l'action, la pratique, peut-elle excéder le savoir que l'on a de la loi? À moins de faire les mitzvot sans le savoir, et encore, on sait que mitzvot c'est chod kavana, il faut avoir l'intention de faire une mitzvot pour être mekayem la mitzvot, alors, même dans ce cas-là. Donc, on n'est pas les monsieur Jourdain de l'observance. Il faut avoir l'intention d'accomplir les mitzvot. Mais comment puis-je accomplir plus de mitzvot que je ne sais, que je n'en ai le savoir? Ve imeinu yodea Torah va mitzvot, ve yesh lo la'asot ha'ma'asim ha'ele, ha'ele, alma asa'am. S'il ne sait pas la Torah ni les mitzvot, et qu'il doit faire ses ma'asim, alma asam. Comment il va les faire? D'où saura-t-il ce qu'il doit faire? Un peu étrange l'expression alma asam, mais bon. Parce qu'effectivement, c'est difficile à dire, c'est difficile à formuler. D'accord? Voilà, donc là, le problème, il est clair, il est nettement posé. Je pars de l'idée qu'il n'y a de chokhma que de connaissance de la loi. C'est le problème dans le Rabbeinu Yonah, je ne vous le cache pas, mais ça, on abordera ça la prochaine fois. Il n'y a ici pas Chochma, il faut entendre la connaissance de la loi. Dès lors, comment se peut-il faire que nous faisions, que nous accomplissions plus de mitzvot que nous n'en connaissions? C'est pas possible! On ne peut pas accomplir plus de mitzvot que nous n'en connaissons! C'est clair, non?
Mais c'est, voilà, c'est la difficulté.
Et regardez sa réponse incroyable. Pareil, je me demande s'il l'a fabriquée, sa réponse. J'ai tellement. Mais c'est pas possible, il n'a pas pensé cette réponse. Il l'a fabriquée, c'est comme on bricole dans les chinois, c'est très, très fréquent ça. On ne sait pas ce qu'on fait, mais au moins on bricole pour. Quand il y a un vin, quand ça merdouille, dans une mara, là on bricole. On rafistole. Ben là, je me dis, c'est tellement gros ce qu'il dit, vous allez voir. Et là, ben suivez dans le texte. C'est pas sur mon front, il n'y a pas de. Quoi, vous êtes perdu? Mais on est. Kol se chokhmato merouba ma'asa ven chokhmato mitkayemet. Tu l'as le Dibourg Amatri? Tu sautes de ligne. Après, kar pirchoa rishonim. Voilà, yesh, alors, regardez cette réponse. Et là, chez Zot, à Mishnah, Dibera, Lefi, Etsa, Tovana ou Mekoubelet, bon sang, s'en fiche. Cette Mishnah dit chez Yesh,
écoutez bien la formule,
chez Yesh, les Mish et Eno Yodéa, les Val Yoval Nafcho, chez Yikabel, Alatsmo, la Asot Konadvarim, Asher Yagidulo, Achachamim, Velo Yasur Mehen, Yaminus Mol, Kacher Yiddaam, Valpi à Torah, Asher Yoru, Oto, Vala Mishpat, etc. Ou Miyad. Alors, on va déjà traduire ça. Et il dit c'est une. Et ça, c'est un conseil utile pour celui. Pour l'ignorant. Les Mish Eno Yodéa. Pour l'ignorant. Conseil utile pour l'ignorant. Lequel? Le Val Yovan Nacho.
Pour qu'il ne se perde pas, pour que,
en fait, pour son salut, pour son propre salut, les vagues de la chose, c'est vraiment le salut personnel, comme disent les chrétiens,
pour son propre salut.
Une etza, c'est quoi le coup? Alors, pas évidemment, parce que sinon il est cuit. Et il dit, c'est quoi? C'est chez Yekabel Alatsmo qu'il prenne sur lui la Asad Kola Devarim de faire toutes les choses que lui diront les Chachamim sans s'en écarter d'un iota, Valpi, etc. Ou Miyad. Et aussitôt que chez Kabbalah Kezo, Yekabel Alatsmo Bilvav Shalem, ou Venefesh Chafetza. Et aussitôt que cette Kabbalah, cette acceptation, il l'accepte, il la prend, il l'accepte sur lui-même, littéralement, il l'assume, Beleva Shalem, de plein gré, ou Benefesh Rafetza, avec désir même. Malé Alav, Sacha, alors il est récompensé, Keilu qui aime Kolamitzvot. Ah, je ne connaissais pas un truc pareil. Il est récompensé comme s'il avait accompli Kolamitzvot. Extraordinaire. Jamais entendu un truc pareil.
C'est magique.
Ah, magique. Enfin, j'ai dit que c'était simplement, j'ai dit que c'était une du bidouillage, une réponse rhétorique. J'ai dit que c'est magique. Bon, déjà, comprendre. Là, vous vous rendez compte, là, vous voyez là, que son souci, c'est la question du Mérubé. C'est plus la... la... En fait, son souci, c'est la Hagdama, c'est dit. Sachez là, la question qu'il pose, c'est évidemment sur comment peut-il y avoir d'abord du Maasé s'il n'y a pas de science. Mais sa réponse explique le Mérubé. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous ignorants, d'abord. Nous sommes tous ignorants, d'abord. Au fond, si nous faisons des choses, si nous avons une pratique, c'est parce que nous l'avons reçue de nos pères, parce que, etc., etc. Enfin, quand on a la chance d'avoir. Sinon, d'accord, c'est ce qu'il dit. Mais il dit seulement, pour cela, il faut une chose, il faut une condition. C'est qu'on accepte les mitzvot, ce qu'on appellera, évidemment, il pense à ce qu'on a, à la kabbalat mitzvot, ce qu'on appelle l'acceptation des mitzvot, qui est la condition nécessaire, par exemple, pour un guet. Il n'y a de guéroute, de conversion, qu'à cette condition. L'acceptation de toutes les mitzvot. Évidemment, un guet du jour au lendemain, un converti du jour au lendemain, ne peut pas tout faire. Voilà. Et ça n'est même pas la question. Il ne venait pas question qu'un guet fasse tout, ce n'est pas le problème. En revanche, il faut qu'il accepte. Mais ce qui vaut pour le guet vaut pour tous les juifs. C'est ce qu'il nous apprend. De là, de ce rabbi Chaim Dossal, il apprend. Il faut, un juif doit d'abord se traiter en ignorant, ou se regarder comme un ignorant, comme un Miche Eino Yodea, comme quelqu'un qui ne sait pas. Et si l'on ne veut pas terminer dans l'absurde, comme on l'a vu, il faut que l'on accepte de plein gré, de plein gré, qu'on accepte autrement, qu'on se dispose de manière originelle, que l'on se dispose de manière originelle à faire les mitzvot. On se dispose à faire. Et cette disposition, comme on dit, on est disponible aux mitzvot. Se rendre disponible aux mitzvot, ça, nous dit Rabbi Yona, ça, c'est comme s'il les avait toutes faites. Donc, par conséquent, s'il acquiert cette disposition, il est dans le Ma'asav Merubin Mechorfato. Parce que, évidemment, il n'aura jamais la science de toutes les mitzvot. En revanche, il sera déjà comme ayant fait toutes les mitzvot. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, c'est tellement extraordinaire que vous vous dites, encore une fois, c'est du bidouillage, c'est pas possible. D'abord, pourquoi je vous dis, mais c'est quoi, c'est du bidouillage, c'est une réponse rhétorique. Comment Rabbeinu Yonah peut-il penser que celui qui se rend disponible au mitzvot, c'est comme s'il les avait tout accomplis. Sahar, il dit Sahar, il est Mekabel Sahar. Il est récompensé comme s'il les avait tout à coup. L'ignorant, le total ignorant, le fameux, l'absolu ignorant dont on a parlé, l'ignorant absolu dont on a parlé tout à l'heure, mais plus cette fois l'outrecuidant. Non. Celui qui, conscient de son ignorance, se rend disponible au mitzvot. Il est récompensé, Mekabel Sahar, il est comme s'il les avait tout accomplis. Ouais.
Ce système fonctionne dans le cas où il ne connaît pas encore les mitzvot. Donc le fait qu'il soit disponible, il a un salaire qui est mérubé par rapport à sa connaissance des mitzvot. Mais les mitzvot ayant un nombre limité, il y a un moment donné où il connaîtra toutes les misères.
Non. Alors tu peux toujours courir. Même tes Rambo, ils n'arriveront jamais. Ça, on le dit, il y a plein de psukim pour dire que là, la Torah est infinie. C'est un doux rêve de croire qu'on fait le...
Oui, mais là, ce que vous avez dit que Rabbi Yuna, c'est la connaissance des mitzvot, la loi. Donc c'est, il faut savoir la mitzvot, il faut savoir quoi faire. Donc c'est le côté, c'est la croissance pratique de la...
Oui, mais ça c'est dans la akushia.
D'accord, mais ça a une limite.
Bien sûr, c'est limité.
D'accord, donc on va bien se retrouver à un moment donné où il a autant de connaissances.
Mais non ! Parce qu'il ne connaîtra jamais, il n'aura jamais la connaissance, la science de toutes les mitzvot. Et pourtant, parce qu'il se sera rendu disponible à toutes les mitzvot, ce sera comme s'il les avait toutes accomplies.
Oui, mais si,
donc
si,
il sera toujours Meroubé, Marsa, Meroubi, Mechormato.
Si vous dites ça, il peut le dire dès le début. Donc il peut dire dès le début, quand il fait une mitzvah, il n'a pas la connaissance absolue de cette mitzvah. Donc à ce moment-là, ça tient.
Mais non, j'ai pas parlé de connaissance absolue de la mitzvah, j'ai parlé de connaissance absolue des mitzvahs. D'accord. Donc on peut croire, ça c'est un autre problème, savoir si quand on connaît une mitzvah, est-ce qu'on la connaît absolument. C'est un autre problème, c'est pas son problème. Là on parle de la connaissance des mitzvot. D'accord. On ne connaîtra jamais, on n'aura jamais la science de toutes les mitzvot. Jamais.
Oui, donc c'est une grâce, je disais magie.
C'est pas une grâce. C'est une disposition.
Non, mais la conséquence, en fait, ici, c'est que...
Non. Tout en étant ignorant. Vous croyez que c'est magie ?
Attendez, regardez. Parce que, bon, vous reconnaissez que vous êtes ignorant. C'est déjà une première chose. C'est une forme d'intelligence, déjà. Ouais. Donc, par cette posture-là, vous vous rendez disponible donc à recevoir et à être disponible au Mitzvot. Cette posture-là, elle est tellement essentielle, apparemment, qu'elle vous permet ensuite que les portes s'ouvrent et qu'on
non,
fait comme si vous étiez. Comme si
vous prenez les choses à l'envers. Il faut que vous preniez la mesure de ce que c'est que cette disposition, de cette disponibilité-là.
Non.
Prendre la mesure en entendant que c'est comme si je les avais tout accompli. C'est-à-dire que cette disponibilité-là, c'est déjà quasiment l'accomplissement des mitzvot. Non, mais ça dit de la pratique, ça élimine tous les fantasmes qu'on peut avoir sur la pratique. Quoi. La pratique, c'est le faire, c'est l'agir, voilà. Non. Fondamentalement, ce qu'il y a de fondamental dans la pratique, c'est cette disposition. Et on peut avoir une vie d'observant sans avoir jamais eu cette disposition. Et donc, on ne sera jamais qu'un semi-ignorant, en tout cas, imparfait tout au culant, ça c'est sûr. Donc, c'est extraordinaire ce qu'il veut.
Si ça, dans ces cas-là, c'est pas l'objet du cours, dans ce cas, ça serait d'aller plus dans le détail de voir en quoi cette posture, qui est pour moi effectivement aussi essentielle, fait que on est cette d'un seul coup.
Non, mais c'est pas d'un seul coup. Je reprends. Quand vous faites une mitzvah, ce qui compte, c'est moins le geste que vous faites que la disposition qu'elle devrait impliquer. Et qu'elle n'implique hélas que rarement. C'est ça qui, dans le srar de la mitzvah, si vous voulez, dans le srar de la mitzvah, ce qui est essentiel, c'est d'abord cette disponibilité. Là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette disponibilité ? On peut après. Mais c'est fondamentalement ça. C'est pas le geste de faire.
Exemple.
De quoi ? De. De mitzvah ? Ah ben non, mais ça après il faut évidemment, il faudrait enchaîner. Qu'est-ce qu'il entend par cette disponibilité-là ? Évidemment, ça c'est un. Ça je suis d'accord avec vous, mais là c'est un deuxième cours. Et c'est. Voilà, là on décolle après. Donc attachez vos ceintures.
Je pense qu'on peut faire ensuite un lien avec la première partie.
Oui, après on peut faire un lien. Après ça c'est le fameux raccord dont rêvait la madame. Ça, c'est Rabbeinu Yonah. Autrement dit, l'acceptation des mitzvot, ce qu'il appelle la Kabbalah, ta mitzvot, c'est quelle qu'elle soit, puisque je suis encore ignorant, quelle qu'elle soit, puisqu'on parle du celui, le Mishéino Yoner, celui qui ne sait pas, encore, celui qui ne connaît pas la loi, il est là, une sorte de cas, le cas, monsieur K, rien. Cette fois, pas devant le château, le pauvre, à la porte du château, mais là, monsieur K. Et il dit, il déclare au gardien, quelle que soit la loi, j'accepte de l'accomplir. Quelle que soit la mitzvah, j'accepte de l'accomplir. Cette acceptation précède ma connaissance des mitzvot. Elle doit être première. Mon acceptation des mitzvot n'est pas fondée sur une approbation de la raison. C'est-à-dire, Nishma Benassé, bon, c'est le fameux sadducéen qui dit, mais attends, il faut d'abord l'approbation, enfin, il faut au moins la connaissance, et dans une version un peu plus subtile, il faut l'approbation de la raison pour faire quelque chose. J'accepte donc acceptation qui n'est pas fondée sur une approbation de la raison. C'est-à-dire une acceptation conséquente à la connaissance. Mais sur une pure disposition. Je me rends disponible à la mitzvah, avant même de savoir ce qu'elle est. Je me dispose à faire, avant même de savoir quoi et sans aucune réticence. Ça, c'est ça qu'il appelle la Kabbalah. Ça, c'est le premier point, évidemment, fondamental. Il est un deuxième point. C'est évidemment donc le sens de Meroubim, cette fois, que j'ai déjà esquissé. Voilà ce qu'il affirme, Rabbeinu Yonah, toujours, étant disposé à faire les mitzvot, c'est comme si d'avance je les avais faites. D'accord ? Ça c'est par suite. Ces actes qui me sont réputés, je parle les actes avant même de les avoir faits, les actes auxquels je suis disposé à faire. Donc ces actes qui me sont réputés, c'est-à-dire, c'est la différence qu'il y a entre les actes que j'ai faits et les actes qui me sont réputés, d'accord ? La différence qu'il a faite, lui, Rabbeinu Yonah. Ces actes qui me sont réputés, étant la totalité des mitzvot, et puisque je ne puis avoir la science totale de toutes les mitzvot, on peut dire que mes actes, entendez, mes actes réputés, excèdent ma science effective, ma connaissance effective des mitzvot. D'accord ? C'est le pshat, c'est la lecture de Rabbeinu Yonah. Elle est brillante, elle est profonde. Évidemment, il y a quelques... Zanny Croche, mais c'est un numéro la prochaine fois. Alors, ah, 10h15, on peut parler plus loin. La prochaine fois, on attaquera la lecture de Lipschitz, qui est aussi remarquable, bon, pour d'autres raisons. Elle n'est pas aussi géniale que celle de Rabbeinu Yonah, mais vous allez voir, c'est une critique de la morale rationnelle qui est extraordinaire. Et j'espère que nous pourrons ensuite faire une synthèse de cette Mishnah. Ah, c'est Tiferet Israël. Tiferet Israël, c'est Israël Lipschitz, grand commentaire du 19e siècle de la Mishnah, donc le dernier en date, je veux dire dans l'édition de la Mishnah que l'on a. Très grand, et son commentaire du traité Avot est absolument remarquable. Bon, mais ça, vous n'avez qu'à voir dans l'édition Verdier, Avot, premier chapitre, etc. Est-ce qu'il y a le temps de faire Marie ? Si on est mignonne ? Est-ce qu'on est mignonne, ouais. On peut faire Marie. Qui va faire Marie? Non.